9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Nous sommes donc le 4 janvier 2019, frère, 2019, et Maître Serran vous salue. Alors, pour cette nouvelle année, que puis-je vous souhaiter? Pour vous, mon cher Philippe, et pourtant je vous aime bien, mais si je devais vous souhaiter un salaire plus important, ce serait indécent, vu le montant qu'on vous paie au sein de cette radio. Vous savez que le montant de votre salaire pourrait créer un autre mouvement des Gilets jaunes. Mais oublions votre personne et voyons ce que pourrait souhaiter Maître Serran à nos auditeurs. Alors je sais que certains d'entre vous, bande de frustrés, souhaiteraient, n'est-ce pas mon cher Philippe, un SGEC plus grand
non
pour 2019.
Ah non,
non, non, non, c'est vrai, c'est non, vrai, c'est vrai. Non. Je m'étais engagé, je m'étais promis à pas utiliser ce terme en 2019.
Ah oui.
Voilà. Allez, bon, c'est terminé. J'ai déjà loupé ma première résolution qui tombe à l'eau. D'aucuns souhaiteraient a lot of money. Alors oui, pourquoi pas, ça peut se comprendre, mais... Qu'est-ce que tu ferais de tout cet argent sans l'amour? Ben oui, hein, l'amour, tu sais, partager tes passions, tes projets avec ta moitié. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Eh oui, mec, tu chantes du Joe Dassin quand t'es amoureux. Bref, tu deviens très con. Alors oui, je pourrais vous souhaiter de trouver l'amour, mais comme je vous veux du bien, je ne vais pas vous souhaiter de trouver cet amour en 2019, car il résulte, mon cher Philippe, d'une étude du MIT, que si tu te maries en 2019, eh bien, dans les 2 ans qui suivent ton mariage, t'as un gamin qui braille comme un cheval et t'as une femme qui a doublé de volume alors que ton compte en banque, lui, a été divisé par 2. Eh oui, les bienfaits du mariage, mon cher Philippe, ça donne à réfléchir quand même. Heureusement que les couples finissent par se détester, par se haïr. Bah oui, hein, pourquoi? Bah parce qu'ils viennent consulter ensuite l'avocat. Ah ouais, alors ouais, oui, ouais. Je sais, mon raisonnement est quelque peu cynique. Non, allez, sérieusement, cette année, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Qu'est-ce que je vais nous souhaiter? Eh ben, comme on dit, le Saha El Hna, mon cher Philippe. Ah oui, le Saha, la santé, bien évidemment. Mais que serait la santé sans le Hna? Vous savez, le Hna, c'est la tranquillité, l'esprit apaisé. Alors oui, mes camarades, pour cette année 2019, je vais vous souhaiter le Saha El Hna. Oui, 2019, j'ai décidé d'être un type apaisé. Oh, apaisement de courte durée, d'ailleurs, mon cher Philippe, et à cause de vous, hier. J'écoutais tranquillement la radio et plus précisément votre émission avec notre ami Abdel Ali, à qui je souhaite d'ailleurs pour cette nouvelle année de retrouver un kölsch digne de ce nom. Et donc j'entends mon ami l'imam parler des enseignants. Alors d'ailleurs au passage, je ne sais pas s'il a parlé des avocats, mais si un jour il en parle, hein, n'hésitez
il
pas
va, à, il va.
Voilà,
va,
à inviter ouais. Maître Serran. Et il introduit le sujet en déclarant que ouais, les enseignants ont une mission, transmission, ils sont passionnés par leur vocation. Oh, à un moment, je me suis dit, mais il parle vraiment des profs d'aujourd'hui, l'imam, c'est pas possible. Et là, mon cher Philippe, j'étais triste de constater que l'imam, avec tout le respect que je lui dois, a commencé l'année 2019 sur une contre-vérité. Donc alors, comme ça, il paraît que les enseignants bossent en cours. D'ailleurs, s'il y a un enseignant qui nous écoute, qui n'hésite pas à appeler, hein, parce que j'imagine de toute manière qu'il a rien d'autre à foutre. Bien, ma remarque sur nos amis, les enseignants étant terminée, je vais donc vous donner maintenant la parole, auditeur, au 01-53-48-3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon. Et sachez-le, la conscience de cette émission, nous parlerons la prochaine fois probablement de la profession des infirmiers et infirmières.
Ah, c'est une bonne idée. Alors, Maître Serran, on a pu constater que votre maîtrise du Joe Dassin est parfaite.
Hein. Ouais.
Ouais.
C'est bien vu.
Vous
quand
en
même.
Connaissez d'autres, des chansons de Joe Dassin?
Ouais, j'en connais d'autres. Oh, Champs-Élysées. Bon, après, je pourrais aller comme ça, mais hein, voilà, on me demande pas de venir pour chanter quand même. Mais celle-là,
ah bah,
je l'aime bien.
C'est bien.
Celle-là,
bien.
Je l'aime bien.
Ouais.
Ouais. Et je signale que ma femme l'aime bien. Ouais,
ah.
Et je crois que voilà.
Peut saluer Mme Serran.
Ouais, on peut ouais. Effectivement, quand on se dragouillait à l'époque, j'hésitais pas à lui chanter ça, tu vois, vite fait quand même. Bon. Ouais, voilà. Bon, je sais pas si elle s'en souvient hein, maintenant qu'elle a Alzheimer.
Je me baladais ouais. Sur l'avenue.
Ah ouais, non mais c'est pas fort ça.
Bah si.
Ouais. Bah voilà. Et ben donc
les
je me baladais sur l'avenue.
De dire voilà. Bonjour à n'importe qui et ce fut toi.
Voilà. Bon voilà.
Tu m'as dit n'importe quoi.
Et tu m'as dit n'importe quoi.
La preuve.
Voilà, à la fin on se marie. Donc
ouais.
C'est que tu m'as dit n'importe
bah
quoi.
Ouais.
Maître
ah voilà.
Serran, je te connaissais pas romantique.
Ouais, n'est-ce pas?
Ouais.
Oh, c'est ça fait plaisir.
Non, mais c'est un faux méchant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sachez-le.
On va introduire le sujet de la journée, les détectives privés, Maître Serran, dans les procédures. Alors, détectives privés ou agents de recherche privés, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant qu'avocat, de faire appel au service d'un détective privé?
Alors, encore une fois, je dis assez régulièrement, ça fait 20 ans que j'exerce, et sincèrement, depuis, on va dire 7-8 ans, J'ai des dossiers où, alors l'initiative vient même pas de l'avocat ou de moi, c'est-à-dire que vous avez des affaires où ce sont les clients qui vous soufflent ça en disant mais si je devais faire intervenir un détective privé, vous en pensez quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je constate quoi? Alors, il y a le dossier classique procédure de divorce avec des histoires d'adultère et autres. Donc ça, c'était assez classique. Il y a quelques années, on en avait de temps en temps des...
C'était à la télé, ça, quand même.
Ouais, alors, d'abord, on voyait ça à la télé assez régulièrement, mais maintenant, voilà, c'est quasiment entré dans les mœurs. Mais il y a quelques années, c'était essentiellement dans ce domaine-là où, alors, monsieur ou madame, peu importe, faisait appel à un détective privé
pour faire suivre madame ou monsieur pour établir la preuve.
Parce que la règle dans un procès étant que si vous déclarez quelque chose, c'est à vous de le prouver. Donc vous pouvez pas faire autrement. Et si vous avez envie d'établir ou de prouver éventuellement l'adultère de monsieur ou de madame, il suffit pas de dire au juge ou que votre avocat dise au juge on constate que, on considère que. C'est si vous le dites, vous devez le prouver. Et il faut savoir que le rapport, évidemment, d'un détective privé est recevable devant la justice. Donc c'est vrai que j'étais relativement habitué à ça, à l'intervention du détective privé dans ce type de litige.
Alors, vous parlez du rapport du détective privé. Le détective privé Maître Serrane, c'est pas un intervenant direct de la justice.
Non, c'est absolument pas un intervenant direct de la justice. Donc il faut savoir que vous avez des détectives privés qui exercent, alors d'abord en qualité de salarié ou dans le cadre d'une profession libérale, mais ce sont pas des intervenants directs. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire appel à leurs compétences tout en
sachant.
D'accord,
mais dans ces cas-là, quand ils sont entendus à titre d'expert, à titre témoin, à titre de quoi?
Non, vous présentez en fait leur rapport, c'est-à-dire qu'ils vont pas être auditionnés comme un expert pourrait être auditionné, c'est-à-dire que le type va rédiger son petit rapport, il va vous envoyer un exemplaire, à charge pour vous, évidemment, principe du contradictoire, donc d'envoyer une copie de ce rapport à la partie adverse. Vous voyez, c'est pas comme dans les films où on vient devant le juge en disant mais
tiens,
j'ai un élément nouveau. Donc ça n'existe pas dans un procès en France, ça n'est pas possible. On voit ça que dans les films américains.
C'est que l'indice de dernière minute arrive.
Non. Voilà, où l'avocat en face est complètement défait. Ça n'est pas possible. On a ce qui s'appelle le principe du contradictoire. Donc même chose pour le rapport d'un détective privé, c'est-à-dire que la partie adverse, l'avocat, monsieur ou madame en face, va pas le découvrir à l'audience. Il sait déjà pertinemment que vous lui avez envoyé ça, il en a pris connaissance, et il peut même éventuellement, en tout cas son avocat, faire des observations sur ce rapport. Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Non, la surprise, c'est évidemment quand l'intéressé donc va lire les constats du détective privé. Donc là, évidemment, ça peut créer des surprise. Mais ce que j'ai pu, encore une fois, moi, constater, alors ce que j'ai évidemment n'est pas scientifique, ça me concerne à mon niveau, c'est que très souvent, donc, j'entendais parler de l'intervention d'un détective privé pour des affaires de divorce,
bon, ouais.
Voilà, et d'adultère. Et aujourd'hui, je constate, et j'ai de plus en plus souvent des discussions là-dessus, on a des personnes qui font appel à des détectives privés pour voir si avant mariage, si le mariage est entre guillemets un vrai mariage, s'il s'agirait pas éventuellement d'un mariage gris, et parfois c'est l'un des futurs conjoints donc qui se pose légitimement, pourquoi pas la question, et parfois c'est la famille de l'un de ces futurs conjoints qui veut savoir si la fille qui est de nationalité française et qui présente monsieur Abdelkarim, je sais pas quoi, et qui lui est sur le territoire français sans papier. Est-ce que la demoiselle donc va pas se faire entre guillemets berner? Donc on a parfois des familles qui sont derrière et qui mènent l'enquête, qui font appel au détective.
Et dans ce cas-là, Maître Serrane, si on découvre qu'on est l'objet d'une filature, est-ce qu'on peut se retourner? Parce que finalement, c'est pas très agréable de découvrir que du jour au lendemain, on est suivi depuis un mois, deux mois.
Non, c'est pas. Alors, je peux l'entendre.
C'est légal.
On
peut se faire suivre.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'après, il faut savoir que le détective privé. Alors, même chose. Encore une fois, les clichés qu'on voit à la télé où le type il force les serrures, où le type il pose des micros, ainsi. Enfin voilà, tout ça n'existe pas. Il faut savoir que le détective privé n'a pas plus de pouvoir que vous ou que moi. Il a sa carte qui ne l'autorise pas comme un policier donc à brandir sa carte et à dire je suis détective privé. D'ailleurs, par définition, en règle générale, je suis pas spécialiste des détectives privés, mais en règle générale, quand on fait son boulot correctement, on évite de dire à tout le monde qu'on l'est, détective privé. Donc on essaie de se ouais. fondre un peu, voilà, dans la masse. Mais
on
il a pas
passe
plus,
sous les radars. Bah
voilà, il a pas plus de pouvoir que vous ou que moi. Donc il doit respecter la loi. Et si évidemment, enfin, je suis n'importe quoi, mais si par exemple un détective privé menait une enquête à votre demande, mon cher Philippe, et puis vous souhaitez vous renseigner sur quelqu'un pour de mauvaises intentions, voyez, je sais. Pas, il y a quelqu'un que vous supportez pas et puis vous faites
vous allez monter un dossier en fait.
Par exemple, ouais. voilà. Donc là, il pourrait y avoir une responsabilité vous concernant vous et pas le détective privé directement, mais après peut-être éventuellement une sorte de complicité pour le détective. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes filé, suivi, encore une fois, il n'y a pas de difficulté tant qu'il n'a pas forcé votre serrure.
Vous pouvez rien faire.
Ben non, il n'y a rien à faire là-dessus, à part vociférer et puis vous en prendre peut-être à vous-même si vous aviez éventuellement des choses à vous reprocher. Mais c'est, entre guillemets, depuis quelques années maintenant, une sorte de tendance.
Alors, il y a aussi une autre tendance, ce sont les entreprises qui font filer leurs salariés.
Ben oui.
Alors, est-ce qu'il y a un cadre légal pour ça ?
Non, mais encore une fois, même chose. C'est-à-dire que, on peut éventuellement demander à un détective privé de filer un salarié si vous avez un salarié qui se met constamment en arrêt maladie, et puis on se pose la question de savoir si tout ça est réel ou pas. On peut éventuellement faire filer son salarié quand on a des disparitions de marchandises au sein de son entrepôt, et puis on a peut-être des doutes, mais pas suffisamment de preuves pour apporter des accusations qui peuvent être graves. Donc, même chose, encore une fois, donc le détective privé peut être utile en la matière, mais là encore, tout en respectant les règles de loi, donc il ne pourra pas aller perquisitionner chez vous en cachette, il ne pourra pas forcer une serrure, donc il doit exercer son activité, encore une fois, je vais presque dire, autant que faire se peut, autant que vous et moi, c'est-à-dire qu'il doit, j'imagine, développer un sens de l'observation assez pointu, il peut accéder à un certain nombre de fichiers, mais ce sont, encore une fois, ce sont pas des fichiers de police, ce sont les fichiers de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est vrai que l'idée qu'on s'en fait, en tout cas, quand j'ai des clients, moi, qui me parlent du détective privé pour me dire, je vais lui demander de faire ceci ou cela, non. Mais d'ailleurs, le détective privé qui exerce son boulot correctement, vous demande de stopper direct s'il a l'impression que vous lui demandez quelque chose qui serait plus que borderline. Donc, ce sont encore une fois des gens comme monsieur et madame tout le monde donc, qui ont cette passion, qui ont développé cette compétence. Et c'est important parce que, je le redis, dans un procès, je dis quelque chose, je dois le prouver. Et très souvent, qu'est-ce qu'on entend ? Vous entendez des clients vous dire « oui, mais je sais que ». Sauf que « je sais que ». Alors, vous pouvez en parler à l'avocat, mais l'avocat ne pourra pas convaincre le juge avec ça.
Donc, ce qui veut dire que dans le cadre d'une procédure, Maître Serran, la preuve peut être apportée par un détective privé.
Ah, complètement. Encore une fois, et ça vaut le coup, évidemment. Alors, après, il faut calculer est-ce que c'est financièrement rentable. Enfin, il y a tous ces à côté qui sont pas à négliger. Mais, j'ai de plus en plus de dossiers où, on me parle d'abord spontanément du détective privé. C'était inimaginable il y a quelques années. Ou alors, c'était essentiellement des sociétés. Maintenant, vous avez des particuliers qui vous en parlent sans difficulté. Il faut savoir aussi, et ça, c'est, il y a probablement joué que le recourir à un détective privé, c'est pas non plus financièrement parlant, inatteignable. C'est-à-dire, il y a quelques années, ça coûtait quand même beaucoup plus cher. Aujourd'hui, entre guillemets, les ça c'est, je vais pas dire ubérisé, c'est pas joli et il y a une mauvaise connotation, mais voilà, c'est quand même abordable. Donc, on a beaucoup de dossiers de cette matière. Et puis, je vous dis, hein, souvent des affaires familiales, c'est-à-dire l'affaire de monsieur et madame tout le monde, et madame décide, ou monsieur décide de faire filer l'un ou l'autre. On a même, il y a 6-7 mois, j'ai un client qui a même fait filer son fils, qui parce que le fils avait engagé un procès pour demander des subsides, c'est-à-dire qu'on a le droit, hein, quand vous êtes un enfant et si vous travaillez pas de manière officielle, vous avez le droit de demander à vos parents, même si vous êtes majeur, et ben qu'ils contribuent évidemment à vous aider à vivre ou à survivre. Donc vous pouvez demander une pension alimentaire. Et j'ai un père qui a engagé un détective privé donc pour se renseigner sur le train de vie de son fils, et c'est un document qui va être utilisé. Donc maintenant, je vais pas dire que c'est devenu courant, mais c'est rentré dans les mœurs. Ça pose pas de difficultés. On se regarde pas avec des grands yeux quand on entend le mot détective privé.
Bon, Et vous, à titre personnel, vous n'avez jamais eu recours à de détectives privés?
Je l'ai sollicité, alors à titre personnel, pour mes dossiers.
Oui, pour vos dossiers. Pas pour faire suivre Madame Serran.
Non. Ah bon? D'accord. Maintenant, peut-être que ça va lui donner des idées pour me faire suivre.
Oui, ça, ouais.
Non, on plaisante.
Il en faudra 3 ou 4 des détectives privés, parce que vu votre emploi du temps.
Merci de la conforter.
Parce que vous êtes place de la filature et vous arrivez à vous défiler facilement.
C'est vrai, on y arrive. Mais sinon, pour revenir à mon activité purement professionnelle, si, il m'arrive parfois de souffler l'idée et même d'insister, encore une fois, pour une raison simple, hein, c'est pas pour que ça coûte plus cher, comme dirait l'autre, à celui qui vient vous voir, mais je le redis, si vous avez des arguments qui peuvent être convaincants, mais que vous pouvez étayer par rien, votre procès est perdu.
Bon, est-ce que vous avez dans votre carnet d'adresses, Maître Serran, des numéros de très bons détectives privés?
Oui, j'en ai.
Ouais. Parce qu'il faut en trouver un bon en plus.
Ah mais il en faut un bon.
Après c'est comme tout,
il faut quelqu'un de sérieux. Si,
donc vous-même vous connaissez. Des...
Ah bien sûr. Donc si il y a une personne qui est à la recherche d'un
très bon détective privé,
il y a pas de difficulté.
Appelez Maître Serran.
Vous pouvez appeler Maître Serran qui vous donnera les coordonnées de l'intéressé.
Bien. D'ailleurs si vous avez une question à poser à Maître Serran, vous pouvez le faire dès maintenant au standard de Beurre FM. Vous appelez le 01 53 48 3000. C'est le début de l'année, c'est la première de l'année. Maître Serran répond à toutes vos questions. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran, a un gros carnet d'adresses qui nous explique, d'ailleurs hors antenne, qu'on peut trouver de tout dans le carnet d'adresses de Maître Serran, donc n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin.
C'est le terme de tout, c'est-à-dire pas dans le...
Ouais, on trouve de tout dans votre
de
carnet
tout.
D'adresses.
D'accord. Bon, bah écoutez, posez-moi la question et puis j'essaie de vous donner.
Ah non, moi je ne pose pas la question en antenne. Je tiens à ce qu'on soit là la semaine prochaine, Maître Serran. 01 53 48 3000, le standard de Beurre FM est à votre disposition si vous voulez poser toutes vos questions juridiques à Maître Serran. Nasser est avec nous. Bonjour, bienvenue et meilleurs vœux, Nasser.
Bonjour, monsieur Philippe. Bonne année, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, Nasser.
Bonne année, meilleurs vœux.
Tous mes vœux, Nasser. Tous mes vœux.
Ah,
très belle année à vous.
À tous les auditeurs de Beurre FM.
Nasser, est-ce que vous avez une question, ou alors est-ce que vous avez besoin d'un bon détective privé? À ce moment-là, n'hésitez pas.
Non, d'un casseur de pouces.
C'est pas le sujet.
Bon, dites-nous, Nasser.
Un casseur de pouces.
Moi, c'est ma question, c'est que j'étais sur une réservation d'une maison à Saint-Étienne. Bah, je cite pas le promoteur ou le matin pour que je fasse pas la pub. En fait, je fais une réservation, j'ai signé la réservation. Ils m'ont montré la maison sur la maquette. J'ai tout fait. Et après, j'ai fait un chèque de réservation. C'était 1000 euros. Mmh. Et c'était normalement le projet, ça doit être livré 2018. Voilà, secret 2018. Et après, quand j'ai signé en juillet 2017. Et ils m'ont dit qu'en septembre 2019, plutôt 2018, il faut que tu viennes signer chez notaire, on va t'appeler. Autre temps, j'ai pris, une courtière. Elle m'a dit, monsieur Nasser, il faut tout un dossier. Et quand j'ai montré mon dossier, parce que moi, je suis sur la région parisienne, elle m'a dit que il te faut, un contrat de travail de ta boîte, parce que j'avais un bon salaire et tout ça. Bah, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mon patron, il va me faire un transfert. Il y a une hôtel là-bas. Bon, au niveau de la courtière, tout est bon.
D'accord.
Après, le projet, c'est retardé. À ce jour-là, il n'y a rien. À ce jour-là.
Ouais.
Là, je viens d'avoir le notaire. Il me dit, vous venez signer le machin. Vous signez votre maison. Et je suis parti voir, comment il s'appelle, c'est pas un c'est une grosse boîte en tout cas, c'est pas un promoteur, c'est voilà. Alors je suis parti à la dame qui s'occupe de ça et m'envoie tous les documents nécessaires et je vois que la maison que j'ai signée au départ au mois de juillet 2017, c'est pas la même celle de 2018 qu'elle m'a envoyé. Le terrain, il est accidenté, le jardin pardon. Et la maison, moins de superficie. Alors du coup, j'ai pas accepté tout ça. Elle m'a dit, alors vous nous faites un courrier, comme ça on vous rembourse les 1000 euros.
D'accord.
Vous dites quoi, monsieur Serran?
Alors, c'est-à-dire qu'entre le moment, monsieur, où... Alors vous avez acheté sur plan, manifestement, mais entre le moment où vous signez alors qu'on a un très beau dessin et que tout ça se fait sur plan, et le moment où vous voyez la maison définitivement construite, vous avez jamais été auparavant voir, on vous a jamais tenu informé, vous avez jamais reçu de photos des constructions et autres?
Si, j'ai tout.
Ouais, mais parce que là, vous me dites que vous avez l'air surpris de, c'est sur un terrain accidenté, tout ça, c'est-à-dire que tout ça, vous l'avez découvert à la dernière seconde.
Voilà, au deuxième, parce que, en fait, quand vous signez une réservation, vous mettez même l'orthographe, le nom et prénom, une signature. Alors je les signe, après, vous m'envoyez le double par courrier. Bon, c'était bon.
Ouais.
Et là, ils m'envoient un autre. C'est pas le même, parce qu'il y a le. Il y a le jardin qui est accidenté.
D'accord. Et quand vous les interrogez là-dessus, monsieur, on vous dit quoi? Ben non, c'est le même. On vous dit, écoutez, on vous en a donné un autre.
Non, c'est. On savait pas comme ça. Pourquoi le... Parce que le commercial, l'autre temps, ils ont changé le commercial qui m'a fait ça. Normalement, le commercial, il voit, oui. Le jardin, c'était comme ça. Mais j'ai dit, regardez le premier plan et regardez le deuxième.
D'accord, voilà. Donc c'était ça ma question. C'est-à-dire que. Vous aviez signé donc un premier plan, et ce qu'on vous livre entre guillemets correspond pas du tout à ça. On est d'accord.
On est là. Au plus le retard.
Voilà. Alors indépendamment du retard, mais ils ont pas d'explication crédible où vous pourriez comprendre que on vous a peut-être changé de lot et autres. Vous considérez que leur position
non,
tient
non,
pas
c'est
la route.
La même maison. C'est la même.
D'accord. Alors, même si c'est la même, d'accord. Alors, il faut que vous m'expliquiez. C'est quoi qui pose difficulté? C'est le terrain qui serait plus petit? C'est le terrain qui serait pas le même que celui qu'on vous a présenté?
Monsieur Serran, moi, c'est le jardin. Parce qu'au départ, j'ai envie pour un grand jardin.
D'accord.
Après, c'est un vice caché. Après, quand j'ai vu le jardin, le moment.
D'accord, c'est à la superficie du jardin, ne correspond pas du tout à ce qui était prévu,
non,
à ce que vous avez signé.
C'est une pente. C'est pas du plat. Au départ, c'est du plat qu'on dit.
D'accord, mais monsieur, je crois qu'on se dit la même chose. Je suis juste en train de. Ce que je veux savoir, c'est-à-dire que vous avez signé, alors voilà, avec un terrain plat et avec une maison d'une certaine forme. Vous avez la même maison, mais manifestement, c'est pas du tout le même terrain.
C'est pas le même jardin, et c'est pas la même superficie.
Bon, bah oui, donc c'est plus que problématique. Est-ce que, avant de découvrir ça, est-ce que, je sais pas, vous avez reçu un courrier pour dire, écoutez, cher monsieur, vous aviez signé ça, mais voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, ou pas du tout?
Non, c'est moi qui ai été vers eux pour chercher, on est où. Je les ai appelés, après, je suis parti par deuxième première étrangère, il m'a dit, voilà, pardon, il y a une modification.
D'accord.
Après, que le jardin il est accidenté, il m'a montré la superficie, après j'ai reçu le nouveau.
Alors attendez, parce que Nasser, on vous perd un peu. Si vous avez le kit main libre, enlevez-le, hein, ou le haut-parleur, comme ça on vous entendra mieux.
Ouais.
Voilà. Techniquement, aujourd'hui, eux, ils vous proposent de vous rembourser ce que vous avez donné.
1000 euros.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils vous disent, monsieur, bon, vous avez attendu tout ce temps-là, tant pis, récupérez vos 1000 euros et on passe à autre chose.
Il n'y a rien à dire.
Voilà, c'est ça.
Enfin, voilà, c'est ce qu'ils vous ont dit. On est prêt à vous rembourser, c'est tout.
Et vous souhaitez obtenir plus, en fait. C'est ça, Nasser?
Légitimement, encore une fois. Bon, d'abord, j'imagine que vous avez dû signer un contrat avec eux.
J'ai signé, oui.
Voilà. Est-ce que vous avez pris connaissance, parce que, en règle générale, quand un contrat est complet, donc, vers la fin, il doit y avoir toute une série de dispositions pour savoir, si c'est vous qui abandonnez le projet, voilà ce qui va se passer.
Oui.
Si c'est eux, voilà ce qui va
ils
se passer.
Dit, si
voilà. Et ça, vous l'avez lu, vous?
Ouais. Vous abandonnez le projet, on vous rembourse pas les 1000 euros. Si vous avez pas de justificatif, voilà.
D'accord. Mais ils ont bien compris que, ce que vous êtes en train de nous dire là, j'imagine que l'ont compris. Vous leur avez à minima envoyé un petit courrier recommandé pour dire, attendez, il y a des difficultés entre ce que j'ai signé et ce que je peux réceptionner. Ça, vous leur avez dit.
Non, j'ai pas envoyé de courrier, je suis parti les voir.
D'accord. Alors, c'est bien de passer les voir, monsieur, sauf que il faut quand même qu'il y ait, puisque manifestement, a priori, il risque d'y avoir un litige entre vous et donc peut-être un tribunal à saisir. Donc, il faudrait peut-être leur confirmer par écrit, recommander à R, ce que vous êtes en train de dire là. C'est primordial. Et d'attendre une réponse officielle de leur part, parce que même s'ils vous ont dit oralement, écoutez, ça va se passer comme ça, il faut attendre quand même une réponse officielle de leur part. Et de deux choses une. Alors d'abord, il faudrait aussi lire le contrat. Hein. Donc c'est rébarbatif, c'est tout ce que vous voulez, mais il va falloir quand même lire le contrat du début jusqu'à la fin, puisque dans tous les contrats de cette nature, on prévoit les conséquences si c'est vous qui refusez ou si ça correspond pas à votre souhait, ou alors si c'est la boîte qui, pour une raison X ou Y, ne donne pas suite au projet. Donc il va falloir quand même, sauf si ça a déjà été fait, il va falloir lire quand même les dispositions du contrat. Mais une fois que vous aurez fait ça, encore une fois, il faut leur confirmer par écrit, monsieur, votre mécontentement, les difficultés que vous traversez. Et puis de deux choses l'une, donc soit vous trouvez un arrangement amiable, alors indépendamment de la somme que vous avez versée, donc ça me semble évidemment normal, mais il y a un préjudice à réparer. Puisque si vous êtes engagé, vous, dans ce projet, bah, ça signifie que vous n'avez pas pu réfléchir à autre chose, vous avez peut-être mobilisé aussi de l'argent, donc vous avez le droit de demander réparation, mais cette réparation, monsieur, si à l'amiable elle ne se fait pas, vous serez obligé, a priori, d'engager leur responsabilité, donc de saisir un tribunal qui sera le tribunal de grande instance.
D'accord.
Ce qui serait bien, c'est d'envoyer le double de votre contrat à Maître Serran, vous voyez, par mail, par exemple.
Bah, c'est important de
bien le voir dans son bureau, si c'est possible.
Ah, ça, c'est beaucoup plus cher. Voir Maître Serran en vrai, c'est beaucoup plus cher.
Mais c'est normal en même temps, c'est normal. Il est en train de dire que ça le dérange pas, qu'il est prêt à payer le triple, ne serait-ce que pour me voir. Non, mais dans ce cas-là, je vais vous donner mes coordonnées, vous me passez un petit coup de fil, voilà. Et puis on regardera ça ensemble, il n'y a pas de difficulté. Si vous avez de quoi noter, je vais vous donner mon numéro.
Ah, avec plaisir, attendez.
Comme ça, tous ceux qui nous écoutent en même temps font comme la serre.
Aussi, hein,
ils peuvent noter votre numéro, Maître Serran, le garder.
Si, on est d'accord. Et se tatouer sur le front ou sur le bras.
Ça, c'est
alors,
bien, oui.
Ouais, on peut faire ça. 06 et 62
ouais.
58 59 64. 06 62 58 59 64.
Vous avez des horaires qu'on vous appelle ou...
Non, vous, alors peut-être pas pendant l'émission, mais d'ici 1h30, 2h.
Ça marche, monsieur Serran.
D'accord, ben Inch'Allah, on fait comme ça.
Inch'Allah. Merci, monsieur Philippe.
Merci, monsieur Nasser. Avec beaucoup de plaisir. Bonne année encore une fois, 2019. Au plaisir. Rabet est avec nous. Rabet, à bientôt. Alors, Rabet est avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue, Rabet. Meilleurs vœux.
Bonjour, merci. Bonne année à vous et puis à monsieur Serran.
Bonne année à vous, Rabet. C'est Rabet ou Rabat?
Rabah.
D'accord, ça ouais. Rabah, bonne année.
Oh, bonne année, bonne santé. En fait, hein, monsieur Serran, j'ai un problème que mon fils il est parti en Arabie Saoudite pour faire l'Umrah. Il arrive là-bas, il a perdu ses papiers. Il a fait un passeport provisoire pour retourner, mais il a fait la demande pour avoir le visa de retour. Le consulat de France, il a fait la demande deux fois. Moi, à chaque fois, je vis ici à la préfecture de Luçon, je demande pourquoi que vous n'avez pas envoyé le visa. Ils disent toujours qu'on n'a pas reçu de la demande. La demande a été déjà faite deux fois.
Et ça, alors, vous pouvez en justifier sans problème, j'imagine. Enfin, il y a une trace que la demande a bien été formalisée.
Bien sûr. Lui, il a justifié.
D'accord. Et quand vous leur présentez ça, ils vous disent quoi?
Ils me disent non, on n'a rien reçu, on a regardé, on a vérifié, on n'a rien reçu, il n'y a pas de demande faite pour ce sujet.
Bon, parce que ça se fait pas par pigeon voyageur, les autorités consulaires envoient ça par mail, et puis ils confirment, voilà, et puis ça s'arrête là, donc c'est quand même assez surprenant.
Voilà, ça a été confirmé que ça a été fait deux fois.
D'accord, mais qui est votre interlocuteur? Vous parlez avec qui?
Bah, c'est à la préfecture.
D'accord.
Moi, la préfecture, parce que le consulat de France à Jeddah, ils ont dit qu'il faut quelqu'un de votre famille là-bas en France qui va aller à la préfecture pour insister d'envoyer le visa. Et je me suis présenté deux fois avec lui. Mm-hmm. La demande a été faite. Ils disent qu'on n'a pas reçu.
Mais alors, indépendamment des tracasseries pénibles, mais ces tracasseries administratives, votre fils est parti dans le cadre d'un voyage organisé. Ça s'est passé comment?
D'un voyage organisé, exactement.
D'accord. Bon, enfin, par définition, quand le voyage est organisé, voilà, on s'adresse au responsable du voyage. Bon, j'imagine qu'il s'adresse à lui. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, à leur niveau?
À leur niveau, il a dit qu'il faut, c'est à vous d'y aller faire la demande au consulat de France. Alors, de toute façon, il a une carte résidence, il n'a pas la nationalité.
Ouais.
Est-ce que ça pose un problème par ça?
Non, mais non, monsieur, ça pose. Il y a rien qui pourrait poser problème à partir du moment où il est sur le territoire français et puis il se retrouve là-bas et qu'il égare ses documents, ce qui peut arriver à tout à chacun. Les autorités consulaires ne font pas de difficultés pour délivrer le visa pour revenir sur le territoire français. Après, si c'est juste une histoire, ça me semble tiré par les cheveux, une histoire de preuve auprès des autorités préfectorales. Bon, il y a eu des échanges, et j'imagine par mail, encore une fois, et pas par pigeon voyageur. Donc, si vous présentez les documents auprès des autorités préfectorales, je vois pas en quoi ils pourraient vous dire, bah écoutez, nous c'est pas confirmé, puisque l'information elle vient des autorités consulaires. Je vois pas en quoi ça pourrait poser difficulté. J'ai du mal à le comprendre, ça. Il y a une trace écrite, quelque chose de la part des autorités, alors soit consulaires, soit des autorités préfectorales, pour dire, bah écoutez, nous on n'a toujours rien, essayez de vous activer, ou c'est juste oralement tout ça?
C'est juste oralement. Alors non, de toute façon, non, le récépissé d'envoyer de l'email de consulat de l'Arabie Saoudite là-bas,
ouais.
Et me l'envoyer même ici à un mois, je l'ai sur.
Bah, j'imagine, ouais. Fois.
Oui, et puis, il ne voulait même pas regarder ça. Il me dit, non, j'ai donné juste la photocopie de sa carte de résidence. Il regarde, et il allait chercher, je ne sais pas, il a déplacé 5-10 minutes après, il revient, on n'en a rien reçu dans son refuge de cette personne.
Bon, alors, ça, bon, vraiment, après, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur l'administratif le plus idiot de France, hein. Il y a aussi des diplômes pour ça, mais en règle générale, sincèrement, les autorités françaises, prennent soin de leurs citoyens, alors qu'ils soient de nationalité française ou résidents. C'est-à-dire que quand ils ont des difficultés à l'étranger, franchement, ça faut le reconnaître, les autorités consulaires, les autorités préfectorales mettent pas de bâton dans les roues. Donc j'ai du mal à comprendre où pourrait se trouver la difficulté. Je vois pas juridiquement comment ils pourraient le empêcher de revenir. Et quand votre fils se rapproche des autorités consulaires pour dire, attendez, moi j'ai la préfecture qui me dit ça, le consulat lui dit quoi à nouveau?
Le consulat a dit, voilà la preuve que nous on a envoyé, on a fait la demande deux fois, ça a été fait jeudi dernier,
ouais.
et vendredi.
Parce que, vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours, au niveau des autorités consulaires, il y a le juriste de service. Mais quand il y a des problèmes de cette nature, alors on peut s'envoyer des mails, mais là, manifestement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui interdirait, dans ce cas-là, aux autorités consulaires de passer un coup de fil directement au tocard de la préfecture pour dire de quoi est-ce qu'on parle, là, puisque ce monsieur est autorisé à revenir en France? Peut-être, votre fils, essayé de les inviter peut-être à se parler plutôt qu'à s'envoyer des mails? Et c'est plus facile pour le consulat de contacter la préfecture que pour chacun d'entre nous, hein, ça je peux vous le confirmer. Mais parce que juridiquement, monsieur, voilà, j'ai... Je vais presque dire vous inciter à engager une procédure de référé, c'est une procédure d'urgence pour dire, écoutez, il faut absolument autoriser mon fils à revenir sur le territoire français. Ça me semble, j'allais dire, disproportionné. C'est peut-être une incompréhension, tout simplement. Mais pour au moins passer l'éponge là-dessus sur une éventuelle incompréhension, il faudrait, alors dans ce cas-là, est-ce que votre fils peut refaire la démarche, inviter directement les autorités consulaires à contacter, mais encore une fois, pas par mail, mais à contacter par téléphone, voilà, pour dire il y a pas de problème particulier concernant votre fils. Donc et je vous dis, à moins que ce soit une incompréhension de la préfecture, mais les autorités françaises sont ce qu'elles sont, elles sont parfois compliquées, chiantes, tout ce que vous voulez, mais sincèrement, ce serait pas sérieux de ma part de dire que quand il y a un résident ou un citoyen qui est à l'étranger, qui a des difficultés, dire que la France déserte, c'est faux. Vraiment, voilà. Et moi, je l'ai vécu dans d'autres situations, les autorités consulaires interviennent sans aucun problème. Donc vraiment,
qu'est-ce qu'on peut conseiller à Rabat?
Encore une fois, d'abord pour essayer de savoir si la préfecture a bien compris le sujet et de savoir si on parle bien de la même chose.
Et s'ils disent on a envoyé deux fois.
C'est ça, moi qui encore une fois. Bon, après, je le redis, c'est-à-dire que si les autorités consulaires disent attendez, nous on l'a envoyé deux fois, on peut le prouver, on peut l'établir, et si la préfecture continue de se comporter comme ça, on passe au contentieux. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a rien qui interdit d'engager une procédure de référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence devant un tribunal administratif. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusque-là parfois, c'est, on sait que le travail a été fait par le consulat, c'est celui qui a réceptionné l'information qui est un peu débile. Donc, il y a aussi cette option qui n'est pas à exclure. Mais vraiment, voyez peut-être, je ne sais pas si ça va tout débloquer, mais que votre fils s'assure, en tout cas qu'il expose cette situation en disant que la préfecture ne me répond absolument pas et considère que rien n'a été fait, et qu'il invite peut-être, et normalement le consulat va le faire, à les contacter directement, et puis pas que par mail, voilà, par téléphone. Mais essayez d'abord ça, et si, alors là, si évidemment ça passe pas, vous entrez au contentieux. Alors il y a des procédures de référé, mais c'est toujours pénible à faire et à diligenter. Mais en tout cas, voilà, si ça peut vous rassurer, ils vont pas le bloquer là-bas, et puis il va revenir, ça c'est certain. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que la préfecture traîne des pieds.
Bien, voilà ce qu'on pouvait dire en l'état de l'affaire, Rabat. Merci pour votre appel. Deux, trois appels dans un instant. Si vous voulez interroger et poser vos questions à Maître Serran ce matin, composez donc le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et Maître Serran, c'est le vendredi, hein, désormais que vous retrouvez Maître Serran, vous avez pris cette habitude depuis la rentrée.
Oui, hein,
maintenant,
vrai.
Le monde entier vous écoute entre 9h et 10h,
exactement,
le vendredi.
Exactement, le vendredi.
Maître Serran, tiens, Kader vous appelle, Maître Serran, Kader est à Marseille. Bonjour, bienvenue et meilleurs vœux, Kader.
Oui, allô ?
Oui, bienvenue, Kader.
Oui, bonjour, Maître.
Bonjour, Kader.
Bonne année.
Bonne année à vous, Kader.
Oui, merci à vous. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande de regroupement familial là pour ma femme et ma fille que j'ai sur l'Algérie. Et entre-temps, bon, c'était accepté, ils vont arriver là. Et entre-temps, j'ai eu un enfant qui est né entre la demande là. Et au niveau du regroupement familial, c'était pris que ma femme et ma fille. Et je voudrais savoir les démarches qu'il y a à faire au niveau de l'enfant.
Oh bah, il faudrait simplement, mais ça c'est le bon sens, le signaler au plus vite. Bon, après on peut pas vous taxer entre guillemets de jouer le malin et de pas avoir déclaré la naissance de l'enfant si vous me dites qu'il est arrivé entre temps. Mais voilà, il faut pour qu'on considère que vous êtes une personne de bonne foi, il va falloir leur soumettre un acte de naissance assez rapidement. Mais ça pose pas de difficultés majeures en la matière.
Hein. Oui, parce que comme elle a rendez-vous pour récupérer son visa d'installation, là, le visa de long séjour, est-ce qu'elle doit l'emmener avec elle au niveau du consulat ?
Bah, ce serait peut-être bien d'informer les autorités consulaires avant le rendez-vous pour venir récupérer le visa. Là, pour l'instant, au moment où on se parle, vous les avez pas informés ?
Si, ils sont au courant.
Ah, d'accord.
On a rendez-vous.
Ouais.
Mais par contre, l'enfant, on n'a encore rien fait parce que on attendait son passeport parce qu'il a un an, cet enfant. Entre-temps, bon, on peut pas le laisser là-bas parce que... Bon,
non, évidemment. Mais moi, ma question, d'accord, donc il a un an, mais c'est-à-dire, vous avez pas attendu que l'enfant ait un an pour les prévenir quand même. C'est-à-dire que quand madame a accouché... spontanément, vous n'êtes pas dit, tiens, on va peut-être prévenir les autorités consulaires ?
Oui, mais quand madame a poussé, si vous voulez, au bout d'un an, puis après, bon, quand j'ai reçu les papiers comme refus, bon, ils n'ont pas marqué le motif. Bon, j'ai fait appel, parce que comme je suis en licence de droit, j'ai fait appel, et puis en 15 jours, c'était accepté. Et c'est là, les démarches, ils ont été très vite.
D'accord, mais moi, ma question, c'est que... madame, quand elle a accouché, elle accouche lundi, j'imagine que vous avez informé les autorités consulaires, alors peut-être pas le lendemain, mais vous avez informé les autorités consulaires de l'arrivée de cet enfant quand même. Vous n'avez pas attendu un an, c'est ça ma question?
Non, on n'a pas du tout informé, c'est ça le problème.
Ah d'accord, bah c'est... ce que je vais vous dire, ça peut sembler le bon sens, mais... autant parfois les autorités françaises, les autorités consulaires sont d'un compliqué pas possible, autant parfois vous donnez les uns et les autres des armes pour qu'on vous complique la vie. C'est-à-dire que moi ça me semble évident, enfin, sauf si pour vous ça semble pas évident, mais ça me semble évident que quand on est dans le cadre d'un regroupement familial, si entre-temps votre épouse, alors qu'elle était enceinte, accouche, on se dit spontanément, je vais peut-être prévenir quand même l'autorité française qui, elle, va m'autoriser à venir sur le territoire français, on doit autoriser ma famille. Donc c'est ce genre de petits détails qui fait que parfois, les autorités consulaires deviennent un peu pointilleuses, pour pas dire chiantes. Mais là, au moment où on se parle, là, maintenant, ça a été fait depuis. Ah, nous parlons.
Alors là, Kader.
Oui, oui.
Voilà. Donc là, alors, au moment où on se parle, là, maintenant, bon, si vous ne l'avez pas fait en temps et en heure, et ça, c'est dommage. Donc pour ceux qui nous écoutent, évidemment, entre le moment où vous vous engagez une procédure de regroupement familial et le moment où vous avez une éventuelle réponse, il se passe un temps infini. Donc il peut se passer plein de trucs dans votre famille, et notamment des naissances. Donc il ne faut pas hésiter à prévenir tout de suite l'autorité consulaire. Bon, ça n'a pas été fait en temps et en heure, mais au moment où on se parle à Kader, les oui. autorités consulaires savent que vous avez un enfant. Enfin, un enfant qui est un nouvel enfant.
Oui, oui, ça, ils sont au courant.
Voilà.
Parce que moi, à la naissance, bon, je l'inscris de partout au niveau de la sécu, tout ça. Il est pris, il est enregistré à la sécu.
D'accord. Mais alors, indépendamment des enregistrements et tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont bien un certificat de naissance qui dit « Monsieur Kader a eu un enfant qui est né à telle date ». Ça, il n'y a pas de problème.
Oui, il n'y a pas de
bon,
problème.
Bon, donc j'imagine qu'ils ont dû l'intégrer dans votre demande de regroupement familial. Ils vont pas vous dire « Le petit, on va le laisser et puis on prend que le reste de la famille ».
Actuellement, c'était pas encore fait, là. Il n'a pas été intégré, là.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes rendu auprès des autorités consulaires pour vous assurer que cet enfant que vous leur avez déclaré est pris en considération dans le dossier complet de toute la famille?
Non, parce que moi, j'arrive pas à les avoir, là, ce que j'appelle souvent le consulat de France d'Alger.
Ah oui, donc, alors évidemment, ça, c'est une vraie difficulté, mais sur place, il y a personne qui peut aller y faire un saut.
Il y a quelqu'un.
Ouais. C'est important, encore une fois. Bon, quand on me dit que j'arrive pas à les joindre, je vous crois volontiers. Même pour nous, dans des procédures, je peux vous assurer que quand ça décroche de l'autre côté, on est parfois surpris. Donc ça, je peux le comprendre et l'entendre. Pour autant, c'est une démarche qui vous incombe, enfin à vous ou à madame, en tout cas à la famille. Donc ça peut pas être, entre guillemets, une excuse. Donc si vous pouvez pas les avoir au téléphone ou si vous pouvez pas aller sur place, il faut faire en sorte qu'il y ait une présence physique. Alors a priori, ce serait bien que ce soit madame, mais en tout cas une personne qui parle en votre nom sur place pour s'assurer que tout ça est carré.
Bah ouais.
Ouais, parce que on peut pas juste se contenter de dire je l'ai déclaré puis en gros on verra. Parce que des fois il y a de mauvaises surprises, donc il vaut mieux avoir quelqu'un en face de soi pour dire j'ai un nouvel enfant, est-ce que tout est carré ou alors est-ce qu'il vous faut des documents. Mais faut pas attendre la dernière fraction de seconde. Hein.
Parce que là aussi on m'a conseillé d'attendre la visite médicale. Quand elle va arriver en France, elle va passer une visite médicale au niveau de l'office. Et c'est là, bon, on va faire la demande au niveau de l'office, comme quoi qu'il y a un enfant, un bébé.
Non mais d'accord.
La loi dit, un enfant moins de 3 ans est susceptible de suivre ses parents.
Voilà, est susceptible.
Oui.
Voilà. Donc le encore une fois, on peut faire des interprétations, comme on dit, exégétiques des termes, c'est-à-dire essayer de les interpréter au maximum. Ça, on peut le faire. Sauf que quand vous êtes en difficulté, ce genre d'interprétation, en règle générale, le client s'en fout. Donc selon moi, n'attendez pas la prochaine étape, monsieur. C'est quand même, et ça coûte rien, de s'assurer de visu. Auprès des autorités consulaires de dire j'ai l'acte de naissance d'un enfant, je vous l'ai déjà envoyé, je veux quand même m'assurer que tout sera carré car on a une procédure de regroupement familial. Vraiment parce que parfois on se complique la vie pour un rien. Donc, voyez, c'est une démarche encore une fois qui coûte pas cher, qui est pas compliquée à faire. Mais qu'il faut faire, franchement, vous pouvez tabler sur le fait de dire tout se passera bien une fois qu'on aura la visite à l'OFI et tout, mais et si ça se passe mal à ce moment-là, et si on vous tacle sur cet enfant qui n'était pas entre guillemets déclaré auprès des autorités consulaires, ou alors vous n'êtes pas assuré qu'ils ont bien pris en considération ce nouvel enfant. Donc il faut pas jouer avec le feu. Vous avez la possibilité, monsieur, avant de vous retrouver en difficulté, de vous assurer que les autorités consulaires ont bien le bon nombre de membres de la famille, comme ça tout est carré et vous partez maintenant, voilà, on est tranquille. Là, ça me fait toujours peur d'entendre des trucs pareils, je vous assure. Hein.
Oui, je sais. Oui,
parce qu'en plus, je le redis, ça coûte rien de s'assurer avant que tout va être carré.
Et qu'est-ce que vous en pensez avec une demande de visa, en donnant les papiers, les passeports et les visas de long séjour des de sa maman et de
non
sa
mais,
soeur.
Monsieur, je vais vous dire un truc. Il y a pas, je vois pas de difficulté en matière. Je peux pas imaginer la France dire ok, vous y allez, le petit il bouge pas de là. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Je crois qu'on a parfois des personnes qui doivent faire le minimum. Encore une fois, au moment où on se parle, que, alors que ce soit vous, que ce soit madame, en tout cas, qu'une personne représentant la famille se pointe auprès des autorités consulaires pour dire, écoutez, on a cette procédure qui est en cours et on en justifie, voilà les documents. Je vous signale que j'ai un enfant, voilà, qui est né à telle date. On vous a, alors vous l'avez peut-être déjà envoyé l'acte de naissance, mais on vous l'a envoyé, ou alors si on vous l'a pas envoyé, je vous présente le document. Merci de prendre cet enfant en considération. Et là, je vous assure que il n'y a pas de difficulté majeure, ni au niveau du droit, ni au niveau des autorités consulaires. Encore faut-il que cette démarche, qui semble une démarche de bon sens, puisse être réalisée.
Oui, bah c'est ça qu'on va faire alors.
Ouais, franchement, encore une fois, n'attendez pas d'être devant la porte pour franchir une frontière et on va vous dire mais cet enfant il vient d'où et ça peut finir par poser des difficultés. Et les autorités françaises n'aiment pas ça et on peut le comprendre.
Oui, mais je comprends
voilà.
Que bon, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu dans ce domaine-là aussi.
Bon, vous avez compris que le droit c'est beaucoup de bon sens.
Ah oui, bien sûr, oui.
Bon, vous voyez, il y a le côté, on interprète ceci ou cela, mais c'est aussi, c'est 60% de bon sens, et là, c'est du bon sens. Donc vous y allez, vous ou madame, tranquillement, avec l'acte de naissance de l'enfant, et puis là, et vraiment, la France va pas vous mettre de bâton dans les roues. Par contre, il pourrait jouer les chiantissimes si on vous dit, attendez, on a consulté dans votre dossier, cet enfant, il vient d'où? Donc il faut pas jouer à ça.
Oui, bien sûr, oui, je comprends.
Voilà.
Oui, je vous comprends là. Bah, c'est bien, je vais envoyer un mail le plus vite possible au consulat de France.
C'est une bonne initiative avec l'acte de naissance de l'enfant.
Avec l'acte de naissance de l'enfant. Et puis, j'attendais juste les papiers, les passeports.
Non, monsieur, n'attendez, il n'y a rien à attendre, encore une fois. L'enfant est né, vous auriez dû le signaler bien avant déjà. Donc n'attendez rien d'autre. Faites-le, ouais, vraiment, c'est important.
C'est-à-dire que c'est maintenant.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
D'accord, ok. Parce que nous, vous savez, parce que ici en France, on ne peut pas signaler tant que l'enfant n'est pas né, parce qu'on ne peut pas savoir s'il est...
Non, mais d'accord, mais là, vous me dites, il y a un an que l'enfant est né, non?
Oui, il y a un an.
Ça laisse le temps quand même.
Il est très, très né.
Oui.
Hein.
Ouais.
Bah non, enfin bon, que quand madame est enceinte, comme voilà, on sait pas ce qui peut éventuellement se passer, je peux l'entendre et le comprendre, mais là ça fait un an. Bon, si vous m'aviez dit l'enfant est né hier, je veux bien, mais un an, ça laisse quand même le temps d'informer les autorités consulaires. Et ça vous savez, ça c'est rien, mais ça pourrait vous être reproché et pourrir votre dossier.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc faites-le vraiment au plus vite.
D'accord, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, je vais le faire.
Voilà.
Dès dimanche, parce que là-bas, ça sera ouvert, les autorités, ça sera ouvert, et puis tout envoyer, tout ça, là.
Très bien.
Voilà, on a gagné deux jours, là.
Oui, on va gagner deux jours, il n'y a pas de problème.
Kader, il ne faut pas procrastiner en début d'année. Il faut faire les choses maintenant.
Oui, non, mais je comprends, parce que moi aussi, je suis dans ce domaine-là, mais...
Mais...
Vous savez, avec les autorités algériennes qui se passent là-bas, parce que, vous savez, le consulat, si vous voulez, c'est la France qui tient le consulat, mais ce qui donne des ordres, c'est des personnes étrangères, espagnoles, italiennes, ceux qui s'occupent des visas, des trucs comme
ça. Kader, bon, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, on a le droit de se dire que c'est pas à l'autorité consulaire ou c'est pas à l'autorité algérienne de dire, tiens, il y a Kader qui a eu un enfant, on va aller faire une fête nationale et le déclarer. C'est quand même. Enfin, je veux bien. On peut reprocher tout ce qu'on veut au pays, mais au bout d'un moment, cette initiative, c'est une initiative qui vous est propre. Vous savez qu'il y a une procédure de regroupement familial. Il y a un enfant qui arrive. Bon, on se dit, tiens, je vais peut-être le signaler quand même. Donc là, c'est bon. Enfin, vous pouvez essayer de vous trouver mille et une excuses, hein, mais franchement, ce serait pas un bon calcul, Kader. Franchement, vous risquez de pénaliser votre situation, la situation de la famille, à cause d'un détail, d'un truc que vous auriez pu régler il y a longtemps.
Ouais,
allez, un petit effort, Kader. Faites un petit saut auprès des autorités consulaires.
Bah oui, mais vous savez, là, je suis en pré-capa. j'ai vraiment pas beaucoup de temps à moi.
Dimanche, vous avez dit dimanche, Kader, vous avez dit dimanche.
Mais, et madame?
Oui, bah d'accord. Mais, non, mais le fax, il n'y a pas de problème. J'avais
bah voilà, enfin bon, si vous ne pouvez pas, mais madame peut peut-être faire un truc, non?
Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Pas convaincu, Kader, hein, pas convaincu.
Ah non, là, on sent, Maître Serran, que votre force de persuasion est très émoussée en début d'année.
Kader,
il a la tête dure. Hein.
Bah oui, enfin, je crois que c'est sa femme qui a la tête dure et c'est elle qui porte la culotte. Voilà, Kader, c'est terminé.
C'est ça que vous dites?
Ouais, je dis ça.
Ah ouais.
Voilà, moi, je
vous êtes comme ça, vous, Maître Serran.
J'en conclue ça pour Kader.
Ah ouais.
Skin. Bon. Je crois qu'il a pas envie de faire venir madame, en fait. C'est ça le vrai truc.
Ça, c'est non,
allez-y, Kader, faut pas perdre de temps.
Allez, dimanche. Merci, Kader, pour votre appel. Maître Serran revient vendredi. Si vous n'avez pas pu passer vos questions en direct, vous pouvez quand même appeler Maître Serran, qui va vous donner très justement et avec
le numéro de téléphone.
Beaucoup de joie, son numéro de téléphone, allez-y.
Enfin, la joie, une voix douce.
Oui,
06 62 58 59
64
06 62 58 59 64. Éventuellement, on adresse mail peut-être.
Allez-y. Maître.serran. Par exemple, si Kader veut vous envoyer un mail.
Par exemple, maître.serran, serhane, @gmail.com.
Merci, Maître Serran. Et très belle semaine à vous. Merci d'avoir été avec nous pour démarrer cette année 2019. On se retrouve demain entre 9h et 10h.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.